Radio France Internationale, il est 15h, en temps universel, 16h à Paris.
Florent Guignard.
À la une de ce journal, la Russie prend soin de l'Afrique. Sommet des chefs de la diplomatie à Sotchi, en Russie. On verra dans un instant ce qu'il s'y est dit. Également, dans ce journal, la charge de Nancy Pelosi contre Joe Biden, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants. Aux États-Unis, estime que le président sortant aurait dû lâcher l'éponge beaucoup plus tôt pour permettre à Kamala Harris de faire vraiment campagne contre Donald Trump. Également, dans ce journal, un incendie dévastateur en Californie et puis une nouvelle crise entre l'Inde et le Bangladesh. Il s'agit cette fois de l'approvisionnement énergétique du Bangladesh coupé par l'Inde. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez En sol majeur avec Yasmine Chouaki. Et on commence donc ce journal par les relations Russie-Afrique à l'occasion d'un sommet à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, en Russie. Et visiblement, les relations sont au beau fixe. Correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoix.
La Russie a promis son soutien total dans un monde multipolaire aux représentants de la cinquantaine de pays africains présents à Sotchi. Dans un message lu par le chef de la diplomatie russe, Vladimir Poutine a dit espérer un renforcement de l'ensemble des liens russo-africains au terme de cette conférence. Le spectre est large, développement durable, lutte contre le terrorisme, épidémies, problèmes alimentaires ou encore conséquences des catastrophes naturelles. Mais ce n'est pas tout. On sait que la milice Wagner ou Afrika Korps, son successeur, soutient des pouvoirs locaux. En 2023, Moscou a par exemple livré pour 4,7 milliards d'euros d'armement sur le continent africain. De grands groupes russes s'intéressent aussi aux matières premières, diamants, pétrole, bauxite. Une façon d'optimiser l'extraction et l'exploitation de ces gisements, soulignait un homme politique nigérian. Reste que si les projets sont intéressants sur le papier, les réalisations concrètes du partenariat développé entre la Russie et les pays africains sont plus rares. Après le sommet des BRICS à Kazan fin octobre, cette conférence illustre elle aussi la volonté de Moscou de démontrer que son isolement sur la scène internationale reste relatif. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Pour preuve, Vladimir Poutine aujourd'hui a signé le traité de coopération militaire avec la Corée du Nord, traité de défense mutuelle qui avait été conclu en juin dernier lors d'une visite du président russe à Pyongyang, alors que les Ukrainiens et les Américains accusent l'armée russe d'accueillir des soldats nord-coréens. Cette nuit et ce matin, dans cette guerre en Ukraine, la Russie a envoyé un nombre record de drones sur le territoire ukrainien, 145 drones, alors qu'une trentaine de drones ukrainiens, eux, ont ciblé la région de Moscou. Ils ont été détruits par les défenses russes. Et puis à signaler aussi cette déclaration du porte-parole du Kremlin qui dit voir des signaux positifs dans le discours de Donald Trump à propos de la guerre en Ukraine. Le président élu des États-Unis a fait le carton plein lors du scrutin de mardi dernier. Dernier résultat tombé, sa victoire dans l'Arizona. Donald Trump a ainsi remporté les 7 états-clés de cette présidentielle. Au total, il engrange 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris. C'est une défaite d'ampleur pour la vice-présidente. Et depuis, le camp démocrate fait son introspection. Les critiques sur la campagne se font entendre. Et c'est une figure du parti en particulier que l'on entend. Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants. Elle dit que si Joe Biden avait jeté l'éponge plus tôt, eh bien, l'histoire de cette présidentielle aurait peut-être été changée.
Ce qui était prévu, c'est que si le président se retirait, il y ait une primaire ouverte. Et comme je l'ai dit, je pense que Kamala Harris se serait bien débrouillée et qu'elle aurait été plus forte pour aller de l'avant. Mais nous ne le saurons jamais, ça ne s'est pas produit ainsi. Nous vivons avec ce qui s'est passé, et puisque le président a immédiatement soutenu Kamala Harris, il était pratiquement impossible d'organiser des primaires à ce moment-là. Si cela avait été beaucoup plus tôt, cela aurait été différent. Mais nous ne sommes pas ici pour nous lamenter. Nous sommes ici pour organiser la façon dont nous allons aller de l'avant. Nous allons avoir de nouveaux talents au sein du parti en vue des prochaines élections. Et peut-être que Kamala en fera partie, c'est à elle de décider.
Nancy Pelosi, dans une interview au New York Times, traduction de Romain Le Maresquier. Donald Trump prépare donc son retour à la Maison-Blanche. Et il a eu pas moins de 3 entretiens téléphoniques depuis mardi avec le Premier ministre israélien. C'est Benjamin Netanyahou qui l'annonce et qui parle de très bonnes discussions. L'armée israélienne a tué ces dernières heures des dizaines de personnes dans le nord de la bande de Gaza. 30 morts au moins lors de 2 frappes. Une famille a notamment été décimée avec des corps déchiquetés selon le témoignage d'un survivant. Au Liban, de nombreux morts aussi, au moins 23 personnes tuées, dont cet enfant, dans une frappe sur une localité au nord de Beyrouth. C'est un bilan encore provisoire. Enfin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 3 morts près de Damas, en Syrie, dans une frappe attribuée à Israël sur un appartement appartenant à des membres du Hezbollah libanais. À Amsterdam, une manifestation de soutien à la Palestine dispersée cet après-midi par la police anti-émeute, qui a aussi procédé à des arrestations. Des centaines de personnes défilaient au cri de Palestine libre. Mais la ville d'Amsterdam avait interdit toute manifestation ce week-end après les bagarres de rue impliquant des hooligans du club de foot israélien Maccabi Tel Aviv et leurs homologues de l'Ajax Amsterdam. À la veille de l'ouverture de la COP29, le sommet mondial pour le climat sur le changement climatique qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan, on va faire un point sur les incendies devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs à cause du réchauffement climatique. Incendie en ce moment en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, qui est encore loin d'être sous contrôle. Constantin Jallot, la météo plus clémente ce week-end quand même permet aux pompiers de reprendre pied contre le brasier.
Seulement 14% de la surface totale de l'incendie était sous contrôle vendredi soir, selon les autorités. Depuis, une accalmie permet aux 2400 pompiers sur place de reprendre leur combat contre le feu. Déclaré mercredi à 80 km de Los Angeles, dans la ville de Camarillo, l'incendie appelé le Mountain Fire en anglais, un type de feu qui se propage très vite, a déjà contraint 10 000 personnes à l'évacuation. En 4 jours, les flammes ont ravagé 220 maisons, selon le dernier bulletin de l'agence Coalfire. Elles ont aussi brûlé 8300 hectares de végétation. Face à la violence du feu, le président américain Joe Biden a appelé le gouverneur de Californie pour lui apporter son soutien et lui proposer une aide financière fédérale. Cela fait 2 ans que la Californie n'a pas connu un feu d'une telle intensité. Les plantes desséchées par les vagues de chaleur de l'été nourrissent aujourd'hui les flammes. 3500 habitations sont toujours menacées.
Constantin Jallot, le Bitcoin atteint un nouveau record. La crypto-monnaie a dépassé le seuil des 80 000 dollars. Et puis, une nouvelle illustration de la crise entre l'Inde et le Bangladesh. L'Inde a coupé l'approvisionnement énergétique du Bangladesh, correspondance de Combastin.
Face à une ardoise de plus de 700 millions d'euros, le Bangladesh demande à échelonner sa dette envers Adani Power. Mais le géant indien se montre intraitable. Il a réduit cette semaine de 60% l'alimentation électrique de son voisin et menace de la couper totalement. Un face-à-face qui traduit la méfiance croissante entre les deux pays depuis la chute de Sheikh Hasina, grande protégée de Narendra Modi. L'Inde s'inquiète de la nouvelle donne à Dhaka. Le chantage énergétique d'Adani, un milliardaire proche de Narendra Modi, vise à rappeler à son voisin que les entreprises indiennes sont incontournables. À Dhaka, on dénonce un accord aux tarifs prohibitifs, symbole du clientélisme de l'ancien régime avec l'Inde. Zilur Rahman, analyste politique.
Le manque de transparence lors de la conduite des négociations et de la signature de l'accord a donné l'impression au public à Dhaka que les intérêts du Bangladesh n'ont pas été correctement représentés.
Ces invectives enveniment une situation déjà tendue. Beaucoup de Bangladais exigent l'extradition de Sheikh Hasina, accusé de crimes contre l'humanité, mais protégé par l'Inde. Combastin, Bangalore, RFI.
Enfin, en France, des centaines de milliers de personnes ont assisté tout à l'heure au départ du Vendée Globe, la course à la voile en solitaire, autour du monde sans escale et sans assistance, avec 40 skippers au départ. 16h10 à Paris, fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.